Histoire du christianisme en France. Jean-Yves Delors et Michel Fauquier.
Bonjour Monsieur Fauquier.
Bonjour Monsieur Delors.
Nous sommes au 5e, 6e et 7e siècle. Il n'y a plus beaucoup de vie intellectuelle comme il y avait autrefois au moment de la culture romaine. On a parlé d'un enfoncement dans les ténèbres. Il y a de la cruauté, il y a la violence des mœurs, il y a le déclin du commerce, la culture, la législation, tout ça c'est pas très très brillant. La succession royale se fait parfois par des meurtres. Est-ce qu'on peut vraiment parler de déclin à ce moment-là ?
Oui, mais il faut l'imputer en fait à l'Empire romain. Et pas...
Il n'existe plus.
Ah ben, si on se situe à ce moment-là. Mais si on regarde les choses sur le temps long, il faut bien voir que l'Empire romain qui s'effondre est en très mauvais état de tous les points de vue que vous avez indiqués. Vous avez un auteur qui s'appelle Salvien de Marseille, qui écrit au moment de l'effondrement de l'Empire romain, et qui dit des choses vraiment définitives. Il montre les barbares qui sont en train de prendre la possession de l'Empire, il les montre comme des modèles dont devraient s'inspirer les Romains, auxquels il fait, en fait, bien avant Molière, le procès d'être des tartuffes. C'est-à-dire des gens qui ne croient plus en rien de ce qui tient leur culture, leur horizon culturel, leur structure les plus fondamentales, qui se vautrent dans les plaisirs, qui n'ont plus aucune intention de défendre quoi que ce soit, de donner de leur personne. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui nous montrent que la société romaine ne va pas du tout bien au moment où elle s'effondre.
Oui.
Elle est en fait emportée, j'allais dire presque naturellement, tout simplement parce que personne n'avait jusqu'alors vraiment tenté de pénétrer dans l'Empire romain pour voir ce que ça donnait. Et il se trouve que cette fois-ci, après la fameuse traversée du Rhin entre le 31 décembre 406 et le 1er janvier 407, dans la nuit, le Rhin qui a gelé, bah, cette fois-ci, ça fonctionne. Et l'Empire romain s'effondre comme un château de cartes. Alors évidemment, ce qui prend la suite n'est pas très brillant. Bien. Les Romains en parlent comme des barbares. Mais il y aurait des choses à dire sur les pratiques romaines, bien des choses. De fait, il n'y a pas d'art monumental, il n'y a pas de littérature. Tous ces genres que nous connaissons et auxquels nous sommes attachés, la philosophie, l'histoire, l'art dramatique, est totalement ignoré d'eux. Leurs traditions matérielles ne sont pas très élaborées. Ce sont d'excellents métallurgistes. Ça, on le sait. Ils ont des manières très particulières de travailler le métal, en particulier pour faire des épées qui sont réputées à l'époque. Mais ça ne va pas tellement au-delà. De fait, leurs incursions vont aussi mettre fin aux grands réseaux... Enfin, mettre fin, c'est pas tout à fait ça. Vont mettre en mauvais état les grands réseaux d'échanges qui vont du nord au sud et de l'est à l'ouest à travers l'espace de l'Empire romain, donc échanges culturels, économiques, politiques, spirituels aussi, hein, parce que nous l'avons vu, quand on parle de l'arianisme, faut pas oublier que c'est un débat de l'Orient qui tout d'un coup déboule en Occident. Bon, ils mettent beaucoup de choses à mal, c'est un effondrement de monde, c'est absolument évident, mais ce qui est assez spectaculaire, c'est que ces Germains qui s'installent dans l'Empire romain, nourrissent une très grande admiration pour l'Empire romain. Oui. Et vont tout faire pour tenter, en fait, de le relever de bien des façons. Alors, ils le relèveront après l'avoir réduit en miettes. Donc, ça ne leur permettra pas d'aller très très loin. On a quelques réseaux scolaires qui se maintiennent jusqu'au 5e siècle. En particulier, il y a un assez grand rayonnement de l'école de Bordeaux, où on raisonne, n'est-ce pas ? Voilà, et qui bénéficie d'une pax visigotha, si on peut dire les choses comme ça. L'Empire visigoth, certes, arien, s'arrange bien de la situation, trouve très bien qu'il y ait une école prestigieuse qui soit installée là, qu'il y ait un épiscopat, même catholique, qui a l'air de bien tenir son monde. Bon, et on remet en marche un certain nombre de choses. Mais la réalité, c'est que l'instruction va se privatiser. Les grandes familles vont appeler des précepteurs pour former leurs enfants, ce que l'on voit dans beaucoup de vies de saints. Les monastères, du moins lorsqu'ils seront structurés sous la forme cénobitique, qui est plutôt un peu tardive au début de notre période, c'est surtout de l'érémitisme commenceront à devenir des centres de culture, mais essentiellement avec une visée spirituelle, et c'est l'essentiel de ce que l'on voit à l'époque.
Mais alors, par exemple, pour ce qui est des mœurs, les successions, par exemple, des rois, c'est quand même violent. On assiste à des scènes difficiles. Il faut tuer.
Oui, d'accord, mais enfin, le meurtre n'est pas le mode de succession normal. On va prendre le cas des Mérovingiens, mais on pourrait parler des Burgondes, des Ostrogoths. Si vous regardez la réalité politique, là encore, au moment de la fin de l'Empire romain, ça fait désormais quelques années que ça va très mal de ce point de vue-là. Ouais. Et des meurtres politiques à Rome, il y en a énormément. Il y a un nom qui va devenir célèbre, mais à ses dépens, un de ces soi-disant empereurs romains, vous allez tout de suite mesurer l'ampleur de la chose, c'est le fameux Olybrius. Alors Olybrius n'est pas resté chez nous, n'est-ce pas, comme la marque d'une très grande maîtrise politique, ni même intelligence. Oui. Vous savez l'usage qu'on fait du mot. Bien, la réalité, c'est que la vie politique à Rome est devenue, et d'ailleurs a été assez longtemps et assez souvent ultra brutale. À Byzance, la vie politique est brutale. Oui, de ce point de vue-là, les Francs sont ni moins ni plus, je dis les Francs, mais oui, on peut dire tous les autres, ni moins plus brutaux que les autres. Oui. Un des problèmes que va rencontrer cette dynastie, c'est qu'elle pratique ce qu'on appelle la fête, c'est-à-dire la vengeance institutionnelle qui va parfois dégénérer sous la forme de guerres importantes. On pourrait traduire fête par le mot vendetta, si vous voulez. Mais bon.
Autre temps, autre mœurs. Merci beaucoup, Michel Fauquier.